Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B qui s'apprête à commencer avec au sommaire une info du jour, mobilisation interprofessionnelle à Rennes organisée ce vendredi, un reportage aux côtés des personnels qui font le ménage au sein du CHU et remontée contre les cadences imposées. Il y aura de la musique dont une nouveauté, une rencontre avec une photographe et deux musiciens, tous inspirés par la bande dessinée Algue Verte. Et puis, recommandation, les journées nationales de l'architecture à Rennes. Bienvenue dans La Reine. Comme toujours, on commence cette émission avec l'info du jour, une info que je retiens pour vous. Plusieurs mobilisations sont organisées ce vendredi 13 octobre à Rennes et ailleurs en Bretagne. Dans un contexte d'inflation qui se poursuit, une manifestation interprofessionnelle s'est élancée dans les rues de Rennes au départ de l'esplanade Charles de Gaulle en fin de matinée ce vendredi. De nombreux secteurs étaient mobilisés, la fonction publique, notamment les enseignants, mais aussi les transports ou encore les médecins. Tous mobilisés pour un meilleur pouvoir d'achat, mais des revendications sur l'égalité homme-femme et la transition énergétique étaient aussi au menu. Côté TGV, TER et car du réseau Bresgo, mais aussi à l'aéroport de Rennes, les perturbations étaient minimes. Certaines lignes régionales et dans Rennes Métropole ont quand même été touchées par le mouvement. C'est surtout dans les écoles qu'il y a eu un impact. La ville de Rennes a prévu un service minimum d'accueil dans 6 des 87 établissements de la ville. 51 cantines étaient tout simplement fermées, avec un pique-nique à fournir dans 31 d'entre elles. L'accueil périscolaire et l'étude ont aussi été rendus impossibles dans de nombreux établissements. Le secteur de la santé était aussi mobilisé, donc dans toute la France et ici aussi à Rennes, particulièrement les médecins qui dénoncent un coût de la consultation insuffisant pour faire face à l'inflation. Ils sont remontés aussi contre la loi Valletoux en ce moment devant le Sénat et qui prévoit notamment un encouragement à exercer dans les déserts médicaux. Encouragement, donc pas d'obligation. La conséquence de cette grogne, c'est qu'en Ille-et-Vilaine, 50 à 80% des cabinets resteront fermés à partir de ce vendredi 13 octobre et pour une durée indéterminée selon des syndicats locaux. Au-delà de Rennes, 4 autres rassemblements étaient organisés dans le département, à Fougères, Saint-Malo et en ce moment, là, au moment où je vous parle, à Vitré et Redon. Allez, après cette info du jour, on poursuit avec un reportage. Mardi 10 octobre, une cinquantaine de personnes sont rentrées dans les bureaux de la direction du CHU de Rennes sur le site de Pontchaillou. Des personnels chargés de l'entretien, qui est sous-traité à la société Net Plus, et épuisés par les cadences imposées depuis le début de l'année. À leur côté, on retrouvait le collectif Ville Jeannesque et Si on s'alliait, mais aussi des syndicats et le collectif féministe Nous Toutes 35. Net Plus emploie aujourd'hui 180 salariés sur l'ensemble des sites du CHU et assure que la charge de travail est réaliste, que les salariés mécontents sont peu nombreux et que l'ancienneté est un signe de bien-être au travail, pour faire simple. À l'issue de ce rassemblement, la direction de l'hôpital s'est-elle engagée à recevoir une délégation des manifestants dans 15 jours. Reportage tout de suite aux côtés de femmes et d'hommes qu'on a peu l'habitude de voir manifester.
Station Pontchaillou, accès CHU et centre Eugène Marquis.
Je fais partie de l'association Si on s'alliait, je suis salariée de l'association. Et en fait, on a créé un collectif là depuis le début de l'année qui est composé de travailleuses et travailleurs de l'entreprise Net Plus, qui est donc sous-traitante du CHU de Rennes. Il y a aussi des syndicats qui nous ont rejoints et des collectifs et associations comme La Cause du Peuple, Les Jeunes Révolutionnaires, Nous Toutes 35.
Net Plus, qui est une société nationale, mais dont le siège est installé
à Cesson, c'est Vigné. C'est Bruno Cardret, le PDG, on va dire, qui est du coup, je ne sais pas si lui il est breton, mais en tout cas c'est une entreprise bretonne à la base qui fait que ce...
S'étendre,
ouais, c'est ça. Il y a plusieurs agences qui sont hors de Bretagne maintenant aussi. Il y a une volonté de Net Plus d'augmenter son chiffre d'affaires tous les ans de 15%. Et une volonté de faire du chiffre d'affaires. Et pour ça, on presse au maximum les salariés. Et du coup, depuis le début de l'année, donc janvier 2023, il y a une nouvelle organisation du travail au sein de Net Plus et spécifiquement sur le site de Pontchaillou où, par exemple, avant, les travailleuses travailleurs n'avaient pas de fiches de poste. Là, elles en ont eu des nouvelles. Et ces fiches de poste ont augmenté drastiquement leur charge de travail sans augmentation du temps de travail. Donc ça fait que sur une journée de 7 heures, c'est pas du tout faisable la quantité de tâches qu'elles ont. Comme c'est pas faisable, il y a d'énormes pressions de la hiérarchie qui leur mettent sous le nez constamment de fait qu'elles doivent réussir les contrôles de propreté qui sont internes à Net Plus et aussi de l'hôpital. Et donc, elles ont, pour certaines, mis le mot de harcèlement moral sur ce qui se passait. Elles rentrent chez elles, je dis elles, majorité de femmes, elles rentrent chez elles en pleurant tous les soirs. Il y a eu beaucoup d'arrêts de travail, il y a eu beaucoup de démissions aussi. Et il y a une personne qui a été licenciée aussi, qu'on a accompagnée là-dedans. Du coup, ouais, avant l'été, on a sollicité les directions de Net Plus et de l'hôpital. On leur a expliqué les revendications, notamment aussi le paiement des heures supplémentaires qui ne sont pas forcément payées, ce genre de choses. Et la direction de Net Plus nous a répondu, on a eu des entretiens avec eux, mais ils nous ont baladés. En gros, ils ont essayé de résoudre les problèmes individuellement, essayé de régler les situations des meneuses, on va dire, pour exploser le collectif, en gros. Et donc nous, on n'a pas accepté ça parce que c'est un problème général, en fait. Et donc... les négociations, on va dire, avec la direction de Net Plus n'ont pour l'instant pas donné grand-chose. Il y a eu deux personnes qui ont eu leurs heures supplémentaires de payer, c'est déjà ça. Et il y a eu là, en fin août, une réunion entre la direction et les salariés pour identifier les besoins des salariés. Mais voilà, c'est juste une réunion comme ça, il n'y a pas eu de suite pour l'instant. La direction de l'hôpital nous a toujours ignorés. Alors on sait de syndicats à l'intérieur de l'hôpital qu'ils suivent ça de loin. Et donc justement, nous, c'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui, parce qu'on veut se faire entendre et de la direction de Net Plus et de la direction de l'hôpital. Et donc, on va un peu mettre la pression à la direction de l'hôpital pour aujourd'hui, l'objectif, c'est de demander un rendez-vous pour négocier, pour expliquer nos revendications. Et voilà, on va se faire entendre aussi avec nos petits balais. Donc en fait, là, l'idée, c'est d'aller faire le ménage dans les locaux de la direction de l'hôpital.
Rentrez, nous sommes à la direction de l'hôpital.
Net Plus, valeur Net Plus.
Les voix de Richard, 61 ans, et Rachida, 45 ans, qui travaillent au nettoyage au sein du CHU de Rennes depuis plus de 20 ans. Ça fait un peu moins de 3 ans que ces missions-là sont sous-traitées par Net Plus.
J'étais au congé parental. Après, j'ai pris un an, c'est passé bien, comme j'ai pris avec le travail. Des pigeons veillés qui est passé là, et ben, ils sont changés, le planning, ça revient du travail qu'on n'arrive pas à le faire. Ils ont donné plein de boulot qu'on n'arrive pas à le faire. Et ben, j'ai dit, c'est pas possible, moi j'arrive pas à faire tout ça. Ça écrit tout petit déjà, comme ça se voit pas, et 3 feuilles, je sais pas combien de bureaux par jour. Mais j'arrive pas toujours, je laisse des bâtiments que je n'ai pas fait, dès que ça ne le plaît pas. Et j'avais reçu des avertissements, des remises à pied. J'étais convoquée et après je deviens dépressée, je deviens malade. Ils étaient toujours derrière moi une semaine, je m'en rappelais bien. Toujours il y a quelqu'un qui revient avec moi sur le site. Et à la fin, j'arrivais plus à travailler. J'ai été voir le psychologue, j'arrivais plus. Le problème, dès que je vois Net Plus, il arrive vers moi, je tremble. J'ai une crise de croisse. Dès que j'ai resté 2 mois, je n'ai pas travaillé. Et là, tous les jours, il revient comme ça. Moi, j'arrive pas. Je travaille 2-5 heures, midi, je les laisse le reste qui reste. Mais ça ne le plaît pas. Ils me disaient toujours, il faut le faire. Moi, ils m'ont contrôlé 2 fois par mois. Ça, c'est le contrôle de Pontchaillou, plus eux qui contrôlent Net Plus. Mais l'idée, c'est qu'il faut nettoyer tout ce qu'il y a sur les murs. Les panneaux, les pieds de chaise, les trucs là qui mettent les pieds. Enfin, tout nettoyer, 5 minutes. Mais j'arrive pas, moi, dans 5 minutes. Et les bureaux, c'est pas le même pour faire 5 minutes.
Vous vivez la même situation, monsieur
Oui, c'est un chef.
Ouais, je suis chef d'équipe.
Ça veut dire quoi, chef d'équipe?
Super empire.
Bah, responsabilité, ouais, 17 personnes. Il y a stress. J'ai du mal à dormir. Pendant un an et demi, ça allait, et puis après, ça s'est dégradé.
Ouais. Et en tant que chef d'équipe, vous, ça vous amène du coup à être comment avec vos collègues?
Faut que je contrôle. Faut que je les contrôle, en plus. Ça me plaît pas. Oui. Il y a de la pression chez eux. La plupart sont angoissés ici. Ouais, j'ai du mal à dormir, j'ai trop de contraintes. Ça me tracasse. Parce que j'ai été convoqué 3 fois, moi. 2 lettres commandées. Hein.
C'est quoi les reproches qui vous sont faits? Ça va pas assez vite?
Bah, je suis pas mon rôle de chef d'équipe. 3 fois ici, là, et 2 fois au siège. Et être commandé, non, je ne vais pas pour ça.
Alors là, il y a une pétition. S'il n'y a personne, 100 personnes, qu'on va remettre par la directrice. Et voilà. Donc, c'est une chanson, vous êtes prêts?
Oui. Il était cardinal plus solaire, il ne fait ça en plus. Il était cardinal plus qui voulait tout nous exploiter, qui voulait tous nous exploiter.
Est-ce que vous deux, c'est la première fois que vous vous mobilisez dans votre carrière professionnelle?
Oui. Ça fait 30 ans que je suis là. Enfin, au l'hôpital sud et ici, 30 ans. Bon, si, c'est la première fois.
Ouais. Ils ne veulent pas écouter. On a fait 3 fois les réunions, ils ne veulent pas surchanger. On n'a jamais vu ça. C'est la première fois que moi, comme je vous avais dit, 23 ans que je travaille ici, il n'y a jamais, j'ai jamais vu ça. Tu dis, j'arrive pas à faire, ils ne veulent pas comprendre. C'est ça qui.
Il n'y a pas d'écoute.
Oui, il n'y a pas
même
d'écoute.
Celui qui remplace Malika, là, qui avait 5 étages à faire du 7 ou 2, là, il n'arrive pas. Je leur ai dit, il faut une personne en plus. Du 7 au 2, avec les chambres de garde, tout. Il y a trop de boulot.
Mmh.
Ils veulent gagner des sous, peut-être. Moi, on m'avait dit qu'ils gagnaient des sous, là. Par mois. Pourtant, j'espérais, à 1 an de la retraite, être tranquille, mais non. On est géré par des... Ils sont trop jeunes. Par des cow-boys.
Sur les conditions de travail pour la 50aine de personnes qui travaillent sur le site de Pontchaillou avec la société Net Plus. On parle de journée de travail de 7 heures avec une demi-heure de pause, un boulot qui est rémunéré au SMIC, mais c'est ce qui est décrit par les salariés. La charge de travail est impossible à assurer. En comptant 5 minutes de nettoyage par pièce, il faudrait y consacrer 9 heures et sans pause.
Pour expliquer pourquoi votre collectif un peu est dans la coordination de cette mobilisation, c'est que vous êtes implanté sur Villejean, ouais, aux côtés des habitants. Il a déjà été question de défense des services publics ou d'autres sujets?
Exactement. Du coup, l'association Sion Salier, on est sur le quartier depuis 2018, mais elle existe depuis 2013, l'association, et on est au plus près en fait, de ce qui se passe dans le quartier. On connaît pas mal de gens, on fait des permanences d'entraide administrative aussi. Du coup, on a rencontré plein de gens divers et variés, mais qui ont pour point commun d'habiter le quartier. Et là, depuis le début de l'année, du coup, des gens qu'on connaissait depuis longtemps sont venus nous voir et ont exprimé des grosses souffrances. Et en fait, c'est parce qu'on les connaissait que du coup, on s'est rendu compte que c'était un problème collectif et qu'après, nous, on a interpellé les syndicats et tout. L'idée, c'est pas spécialement que ce soit porté par Sion Salienne, on soutient le groupe et ce qui compte, c'est les résultats de la négociation. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de faire ça. Par exemple, l'année dernière, on a obtenu la réouverture de l'antenne de la CPAM sur le quartier de Villejean. Ça faisait plusieurs années qu'ils voulaient la fermer. Il y a eu d'autres choses qu'on a pu faire comme... des campagnes auprès des bailleurs sociaux pour qu'ils fassent des travaux chez les gens parce qu'ils laissaient les logements avec des moisissures, des champignons, etc. Et du coup, le fait de collectiviser, de soutenir la mobilisation, ça permet aux gens de ne plus se sentir tout seuls, de collectiviser les colères et de les exprimer pour arranger la situation.
Et j'avais peut-être juste une dernière question. On parle de combien de travailleuses, donc essentiellement, qui sont mobilisées?
Alors, mobilisées, pour l'instant, il y a beaucoup de peur. Donc on a une petite dizaine de travailleuses et travailleurs qui se mobilisent. L'idée de cette action aujourd'hui aussi, c'est de montrer qu'on peut faire quelque chose et que les langues se délient petit à petit. Le collectif augmente de plus en plus pour les personnes premières concernées. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis aussi, qui ont démissionné. Et là, l'idée, c'est de montrer qu'il y a un groupe, beaucoup de soutien aussi, c'est une question de santé publique aussi. Et le matériel n'est pas super décent, par exemple. Normalement, il faut un aspirateur par personne. Là, il y en a 1 pour 5, on va dire, qui est potentiellement défectueux. Donc, les chiffonnettes, elles sont usées jusqu'à la moelle. Enfin, c'est aussi une question de santé publique, parce que du coup, c'est au sein de l'hôpital, en fait, qu'il y a des problèmes comme ça. Et donc, si l'hôpital n'est pas bien nettoyé, ça implique des maladies qui se propagent plus facilement aussi. Donc, c'est pour ça que ça concerne tout le monde. Et du coup, le fait qu'on fasse des actions comme ça, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent améliorer leurs conditions de travail en participant à cette mobilisation. Faisant changer la peur de camp.
Flor de la Frontera, c'est le morceau que vous venez d'entendre sur Canal B, une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par Yann, notre programmateur, et à retrouver sur un album, Aura, qui est sorti le 29 septembre dernier sur le label Trouble in Mind. tout le contraire d'un troisième album difficile, raconte ce groupe espagnol à un quatuor féminin qui prend là un virage électronique. Vous êtes en train d'écouter L'Arène, l'émission d'info locale de Canal B, peut-être en ligne sur notre site internet canalb.fr. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des podcasts des émissions réalisées par des salariés, mais aussi par de nombreux bénévoles. Canal B qui s'écoute sinon sur la FM, sur le 94.0. Allez, on continue cette émission avec une rencontre à deux voix inspirée par les algues vertes. Et oui, en feuilletant le programme de la saison culturelle de l'université Rennes 2, qui est toujours au top en passant, j'ai relevé deux propositions autour des algues vertes à l'automne. D'abord, depuis le 9 octobre jusqu'au 15 décembre, la photographe Alice Palot, qui vit en Belgique, expose à la Chambre Claire Algue maudite, A Sea of Tears. C'est un travail documentaire sensible entre témoignages, documents scientifiques et imaginaires poétiques. On l'écoute nous raconter ce travail.
Donc, je m'appelle Alice Palot, je suis artiste photographe et je travaille sur les questions néfastes de l'être humain, sur la nature et notre environnement en constante mutation. Donc, je m'intéresse plus particulièrement aux problématiques que je considère comme invisibles par leur matière et les problématiques invisibilisées. Donc, ce qui me fascine à travers la photographie, c'est de documenter ce que j'appelle des documentaires d'anticipation, des documentaires sensibles, mais aussi les phénomènes naturels, des réalités silencieuses et des réalités cachées.
Donc on arrive à cette exposition qui vient de commencer. C'est quoi le point de départ, votre intérêt pour les algues vertes, puisque c'est le sujet de l'exposition? Il arrive quand?
Alors il arrive il y a 2 ans à peu près. Donc j'ai découvert la bande dessinée de Inès Leroy, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup choquée. Et suite à ça, je me suis renseignée en fait sur la documentation photographique qui était disponible par rapport à la problématique des algues vertes en Bretagne. Et je n'en ai trouvé que très peu. Donc suite à ça, j'ai été mise en contact en fait avec Yves-Marie Lelay, qui est le président de l'association Sauvegarde du Trégor Gaëlo-Penthièvre en Bretagne, donc dans les Côtes d'Armor. On s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un manque total de documentation photographique, notamment par rapport à l'effondrement de la biodiversité. Donc suite à ça, j'ai décidé de m'attaquer au sujet et d'aller voir ce qui se passait et de comprendre au début avec les habitants, avec des personnes sur place. Et puis j'ai postulé à cette résidence, la résidence 1+2, qui est une résidence qui permet à des photographes artistes comme moi de travailler dans le domaine de la science. Donc c'est-à-dire que j'ai été mise en contact avec un laboratoire scientifique et j'ai pu travailler avec eux sur les problèmes liés à l'anoxie, donc le manque d'oxygène dans certaines zones bretonnes.
C'est là qu'intervient le laboratoire au centre de recherche de Toulouse?
Exactement, donc il s'agit du laboratoire écologie fonctionnelle et environnement au CNRS Occitanie-Ouest.
Il y a donc une partie sur le terrain de rencontre, une partie en laboratoire à la rencontre aussi là, de chercheurs. La partie photographique, comment est-ce qu'elle a été mise en scène? J'ai lu que vous utilisiez la pollution comme filtre photographique. Est-ce qu'on peut parler de la partie un peu technique?
Tout à fait. Alors je disais tout à l'heure que je m'intéressais à ce que j'appelle des documentaires d'anticipation. Donc c'est-à-dire que je vais vraiment documenter le réel pour donner ma vision d'un futur proche. Donc si vous regardez mes images, on dirait que ce sont des images complètement dans un univers pratiquement lunaire, martien, assez science-fictionnel. Mais non, on est bien sur Terre et dans ces cas-là, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Et donc, l'idée, justement, c'est d'utiliser des déchets que je trouve par terre pour réaliser ces images. Donc, c'est-à-dire que je vais aussi bien utiliser des bouteilles de plastique que je glane sur les plages, des algues, justement, des algues vertes aussi comme filtre photographique, pour vraiment créer une sorte d'expérience immersive d'un monde naturel pollué, tout en faisant allusion en même temps au monde potentiel vers lequel on tend si on est submergé par ce type de déchets.
Très concrètement, le public, il peut découvrir combien de photographies?
Alors, à Rennes, dans la galerie La Chambre Claire, j'ai beaucoup de chance puisque l'espace est très grand. Donc, il y a vraiment une grande partie de la série. Je pense qu'on a à peu près 20-25 photographies. Et puis, on a mis en place une grande vitrine où on peut découvrir le livre que j'ai publié récemment avec la maison d'édition Area Books qui s'appelle « Algues maudites, A Sea of Tears ». Et donc, dans ce livre, il y a un texte magnifique de l'historien de la photographie Michel Poivert, qui en fait écrit un texte comme s'il était une intelligence artificielle en 2056 et il décrit le projet à travers sa vision en 2056. Donc il y a toujours un rapport assez fort au futur, à l'imaginaire. Donc c'est-à-dire que même si on parle d'une problématique qui est absolument catastrophique, l'idée c'est que l'imaginaire puisse aussi aider justement à se rendre compte de la problématique. Et surtout, pour moi, la photographie est capable de projeter un monde des possibles. Et donc, j'ai envie de montrer le pouvoir narratif également de la photographie en racontant l'histoire des algues vertes. Oui, alors le travail a été pas mal exposé cette année. Donc, il est actuellement exposé dans une grande exposition dans le cadre de Photoclimat à la Maison des Arts de la Culture de Créteil. Et ensuite, il a été exposé à Montpellier, à Taïwan, à Amsterdam, à Bruxelles... à Paris également, voilà, j'en oublie sans doute, mais donc c'est un projet qui tourne pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'en parle à l'étranger, en fait, voilà, il y a énormément de problématiques de ce type liées à l'agriculture intensive, donc tout le monde s'y retrouve. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'en faire une problématique globale pour qu'on en parle de plus en plus.
Est-ce que je peux vous laisser choisir une des photographies et de nous raconter ce qui se cache derrière ce cliché ?
Alors, je vais choisir une photographie verte où on voit une femme en combinaison, debout, en train de contempler un espace avec des bâtons. C'est une photographie qui est toute verte avec des nuages. Donc, cette photographie, il s'agit de Pauline Herel de l'association Sauvegarde du Trégor Gaëlo-Penthièvre, qui est sur une plage dans la baie de Sabrieux. Et donc, elle creuse et elle étaye un rapport, suite à l'effondrement de la biodiversité, un rapport de la biodiversité sur toutes les plages de Bretagne-Nord. Donc elle va vraiment creuser en fait un périmètre de 1 mètre par 1 mètre et elle va venir avec son tamis regarder quel type de biodiversité, quel type d'organismes vont subsister au manque d'oxygène et justement à la putréfaction des sols. Donc j'aime beaucoup cette image parce que je trouve qu'elle parle aussi bien du présent que du futur vers lequel on tend, du monde vers lequel on tend et du monde abîmé qu'on est en train d'exploiter. Donc voilà, je pense que c'est une photographie assez importante de la série. Elle a été réalisée avec un déchet, avec une bouteille de plastique. Donc c'est ce qui lui donne peut-être ce caractère un peu dystopique. Et j'enchaînerai avec le fait qu'à Toulouse, justement, dans le laboratoire écologie fonctionnelle et environnement, on a travaillé sur ce manque d'oxygène en fait dans des milieux. Donc on a reproduit dans des aquariums les conditions de marée verte en Bretagne, donc avec l'eutrophisation de la matière, notamment, et le manque d'oxygène. Et on est venu à un constat, c'est-à-dire celui qui a encore une forme de biodiversité qui est capable de se développer. Donc évidemment, on est sur l'effondrement d'un écosystème, mais si on regarde cela d'un point de vue non-anthropocentré, on peut justement remarquer qu'il y a également un changement d'écosystème. Donc l'idée, c'est pas de dire il y a un effondrement de la biodiversité et c'est pas grave, parce que c'est très grave. Mais l'idée, c'est de dire que nous ne serons pas justement les derniers survivants et que la nature est quand même extrêmement résiliente face à ces actions néfastes pour l'environnement.
Le point de départ à votre travail, c'était la découverte donc, du travail d'Inès Leroux, journaliste bien connue en région Bretagne pour avoir enquêté et travaillé sur le secteur agroalimentaire et les algues vertes. Je pense que là, cette année 2023, elle n'a jamais été aussi riche en apports à la fois artistiques, mais aussi documentaires, informatifs sur ce sujet des algues vertes. Il y a évidemment eu la sortie au cinéma du film qui reprend le combat d'Inès Leroux. À venir aussi ce BD concert qui a notamment connu un peu un phénomène de censure mais qui va se produire au Tambour au mois de novembre. Vous placez comment là-dedans? Vous êtes en lien avec ces différentes choses qui se font? Vous les observez de loin?
Bien sûr, moi je les observe, je suis aussi pas mal en contact avec Yves-Marie Lelay, à qui je parle régulièrement, donc qui est justement écologiste dans l'association Sauvegarde du Trégor Gaëlo-Penthièvre. Voilà, après c'est vrai que le fait de ne pas être sur le territoire breton, je pense que j'ai évidemment pas le même rapport, mais c'est sûr qu'en tout cas, j'essaye de suivre ça au maximum et de les montrer, de les interpréter à travers des expositions. Je pense que c'est extrêmement important pour le grand public aussi de regarder tout ça par le prisme d'un autre imaginaire. Là, maintenant, en fait, j'ai pour volonté de documenter les paysages des plages bretonnes sans montrer les algues vertes parce qu'en fait, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important de montrer qu'il y a une sorte d'invisibilité de la problématique parce que la matière n'est pas présente tout le temps et parce qu'il y a une sorte aussi d'invisibilité du gaz H2S. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur en photographie et c'est une grande question, c'est un questionnement. Comment on fait pour documenter des choses qui sont invisibles et pour les montrer par le médium de la photographie? Donc je réalise aussi pas mal d'expérimentations de la matière pour pouvoir pallier justement à cette problématique. On me pose beaucoup la question, est-ce que ça ne te dérange pas de montrer une problématique néfaste et que ce soit beau, que tes images soient belles? Et c'est, voilà, je m'auto-pose la question parce que je trouve que c'est extrêmement important d'en parler. Pour moi, aujourd'hui, on vit dans une société, en tout cas d'images, où on voit énormément d'images et de belles images. Et donc, pour moi, montrer des belles images, c'est aussi une manière d'attirer. Et puis, par justement cette sorte de beauté malade de ces images, de venir questionner par cette étrangeté, de venir questionner spectateurs, spectatrices. Et j'espère justement que par le côté étrange et presque un peu dystopique, ils vont venir se questionner et voilà et comprendre plus profondément de quoi il s'agit. Parce que dans toutes mes expositions, il y a énormément de documentation, scientifique notamment, qui permettent de comprendre, si on le souhaite, la problématique dans tous ces enjeux.
Auditeurs, vous pourrez rencontrer Alice Palot pour son expo Algue Maudite, A Sea of Tears, mardi 14 novembre, à l'issue du concert BD qu'on va annoncer maintenant. Encore des artistes inspirés par la lecture de la bande dessinée d'Inès Leroux. François Joncourt, alias Point, et Arnaud du groupe Mnémotechnique sont tous les deux bretons. Ils ont construit un concert BD nerveux et déterminé à découvrir au Tambour le 14 novembre à 20h. Ils nous racontent ce projet, encore en tournée pour une quinzaine de dates.
Je suis Arnaud, je suis guitariste et chanteur dans le groupe Mnémotechnique. On est basé à Brest avec aussi un Rennais dans la bande qui est à la batterie, Anthony, et donc avec Xavier à la basse. C'est un trio depuis quelques années, on existe depuis un peu plus de 10 ans. Voilà, un groupe rock plutôt orienté noise, avec 3 albums dont les 2 derniers sont sortis sur un label basé à Rennes qui s'appelle Kervignou Records et on leur fait coucou par la même occasion. Ça, c'était l'activité avant ce concert BD Algue Verte qui a démarré. Voilà, il y a 1 an et demi sur scène et il y a 2 ans et demi en réflexion et en création.
Je m'appelle François, donc je suis musicien. Je pratique essentiellement la guitare et le synthétiseur dit modulaire. Voilà, je travaille pour la première fois avec les Mnémotechnique, hein, que je connais néanmoins depuis maintenant pas mal d'années, puisqu'on se croisait déjà à la fin des années 2000, lorsque j'occupais le poste de guitariste dans un groupe qui s'appelait I Come From Pop. Et Arnaud a eu l'idée de m'inviter à participer à ce beau projet avec eux, et j'ai accepté avec grande joie.
Comment est-ce qu'est née l'idée de ce projet? J'ai l'impression que la lecture de la bande dessinée Algue Verte a été une inspiration pour pas mal de gens. C'est aussi ça le point de départ, c'est tout simplement la lecture de cette bande dessinée?
Évidemment, ce spectacle est un relais qu'on donne à cette enquête, bande dessinée, et parce qu'elle nous a vraiment marqués, parce que pour moi et pour nous, puisqu'on partage hein, tous le même point de vue, et c'est pour ça qu'on se retrouve sur scène à le jouer, pour nous, c'est une enquête qui synthétise quelque chose qui se passe très globalement dans notre société actuelle et qui est traduite ici, sur notre terre bretonne, par les algues vertes, finalement. Parce que l'enquête part de ces dramatiques accidents sur les plages, et puis elle remonte toute la filière de l'agro-industrie jusqu'au pouvoir politique, finalement, qui domine et qui verrouille un système. Et c'est quelque chose qui nous touche sur des questions écologiques, des questions sociales, mais qui se reproduit partout, finalement, dans toute la société. C'est cette domination et ce schéma des politiques qui verrouillent et qui ont leur complicité sur le terrain. C'est une démonstration exemplaire et qui nous a touchés par ces sujets sur lesquels on échangeait beaucoup au quotidien. Voilà, donc en effet, la lecture de la bande dessinée, et puis un questionnement dans notre pratique artistique après confinement, puisque nous sommes sur des musiques plutôt qui évoluent dans les réseaux alternatifs, cafés, concerts, clubs, bars, un peu moins souvent des salles officielles. On s'est retrouvé complètement démunis à la pseudo-reprise des spectacles qui était très très lente et en fait inexistante au départ pour les musiques alternatives. C'est toujours compliqué d'ailleurs, mais on a été coupé dans un élan de pratique sur ces réseaux alternatifs. Et du coup, il y a eu une colère générale qu'on a voulu exprimer dans une forme enrichie artistiquement et avec la volonté d'un engagement plus clair, en tout cas plus audible, parce qu'il était déjà là dans les propos des albums précédents, mais là, à la fois avec l'envie d'avoir une forme artistique enrichie, donc par l'image et par les questions de témoignage, de journalisme, on a complété notre pratique et on l'a aussi éclairci en engagement.
Le concert BD, ça fait déjà un moment qu'il tourne, plus d'un an. Le public pourra le découvrir à Rennes au Tambour, mardi 14 novembre prochain à partir de 20h. Forcément, par rapport à la bande dessinée, avoir un apport musical, ça va rendre le propos et toutes les informations qui y sont amenées, j'allais dire, peut-être moins froid qu'une information sur le papier. Comment est-ce qu'on adapte une bande dessinée pour en faire un concert? Il a ressemblé à quoi le travail de création?
On se confrontait à une forme qu'on a déjà observée, hein, les ciné-concerts ou les BD-concerts, on en avait déjà vu. Et parfois, il y avait peut-être une pratique un peu scolaire qu'on a trouvée dans certains spectacles, de dérouler entièrement un récit, une bande dessinée ou un film, et de mettre des musiciens sur les côtés de la scène un peu discrètement pour accompagner les choses. Et on a pris les choses à l'envers. En fait, c'était une idée de François, d'ailleurs, de commencer par la musique. Et de ne pas faire le descriptif complet de toute cette bande dessinée. De toute façon, c'était à peu près impossible, vu que déjà, en lecture simple, on a parfois besoin de plusieurs jours pour la lire. Elle est tellement dense, il y a tellement de protagonistes qu'il était impossible de reprendre l'intégralité. Donc, on a composé la musique en orientant les choses avec les thèmes de chaque chapitre. Et par rapport à la teneur de ces thèmes-là, on a envisagé des durées. Et à partir de là, on a fait de la création musicale pendant plusieurs semaines, et une fois que les choses étaient fixées musicalement, on s'est attaqué à l'image en travaillant avec Paul Le Gall de La Rocade à Brest, avec qui on a travaillé en graphisme et en vidéo à retourner dans ces thèmes-là, à aller chercher dans la bande dessinée tous les éléments qui nourrissent le propos et qui racontent l'histoire, avec évidemment quand même de notre part des choix, des grandes décisions sur les choses qu'on voulait aborder et celles qu'on n'aborde pas.
Un scandale nauséabond qui imprègne nos sols, nos rivières et nos plages, nos assiettes et nos champs, nos villages et nos villes, nos familles, nos paysans et nos ouvriers, notre classe laborieuse, notre démocratie, nos vies. Trois ou quatre générations d'idéologies hégémoniques, par la force du pouvoir corrompu, déversées dans les journaux, les radios, les télévisions, les manuels scolaires et les histoires du dimanche. Un saccage, des morts et le courage d'une véritable lanceuse d'alerte. Évidemment, Inès Leroux qui a écrit cette bande dessinée et mener l'enquête, elle est bien connue en territoire breton. On comprend que le sujet est lourd. Comment ça va se traduire musicalement? Vous serez combien sur scène? Et puis, quelles ambiances vous allez construire face au public?
Les ambiances musicales, elles vont être à l'image de tout ce qu'on peut ressentir, qu'on a pu ressentir à la lecture de cette bande dessinée, à savoir peut-être la sensation première, l'émotion première et celle d'une colère. Ça va donner quelque chose d'assez nerveux sur le plan musical, mais il y a aussi des moments plus mélancoliques, avec des moments de tristesse, peut-être aussi d'abattement un petit peu, in fine avec quelque chose qui est de l'ordre d'une musique difficile à décrire comme ça, mais peut-être un peu combative, quoi, en tout cas qui insiste, et de par peut-être la répétition de certains motifs, montrer que qu'on n'abandonne pas malgré le constat. Il y avait toutes ces émotions-là qu'on essaye de mettre en relation avec un savoir qui lui est très rationnel, hein, qui est celui de l'enquête journalistique avec des éléments scientifiques. Nous, on essaye de confronter et de mêler à ça, de créer un tissage avec un savoir peut-être plus sensible.
Le concert BD, il a déjà été présenté plusieurs fois face au public depuis plus d'un an. Épisode qui a été assez médiatisé, c'est celui de l'annulation de la représentation du côté de Planquette, ce qui amène à questionner un peu le tabou toujours présent autour de ce sujet des algues vertes. Combien de représentations passées, combien à venir? Est-ce que ça a été facile de trouver des endroits où jouer? Si je dis pas de bêtises, là c'est la première fois que vous venez à Rennes.
Alors, en fait, c'est la deuxième fois qu'on vient à Rennes, puisqu'on a déjà été accueilli il y a un an par l'Antipode. Et puis sinon, on a fait 25 représentations environ. Et il en reste une quinzaine de programmées. Donc on est content de ça, d'en arriver à une quarantaine de représentations. Et cet épisode de l'annulation par Dinan Communauté pour la programmation à Plancoët, qui n'était pas prévu, hein, qu'on le sache, c'est des choses qui se font évidemment en arrière-plan, qui sont pas officielles. Ça fait partie des options qu'on a sur notre calendrier de travail qui disparaissent. On ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi est-ce qu'on a pas mal d'options qui sont rarement confirmées. Alors, on ne va pas virer dans la paranoïa, mais on sait très bien qu'il se passe quelque chose politiquement là-dessus, et on s'y attendait évidemment. Voilà, donc on est content de ces 40 dates. On espère qu'il y en aura d'autres. Évidemment, on remercie chaleureusement toutes les programmatrices et programmateurs qui l'ont fait, qui nous ont accueillis, parce qu'on se rend compte finalement qu'il faut un certain courage. On n'était peut-être pas suffisamment conscient au départ, mais il faut un certain courage pour programmer un spectacle à teneur politique et sur ces sujets-là en Bretagne, en fait. Peut-être souligner que là où l'enquête d'Inès Lérault vise juste, c'est qu'elle évite le cliché d'une soi-disant confrontation, enfin lutte entre paysans contre les écolos. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des paysans et qu'on les soutient et qu'on sait que c'est des choix qui sont faits ailleurs. Et donc cette lutte-là, elle est tout de suite évacuée. Et c'est important parce que c'est l'outil justement pour brouiller les pistes et pour noyer le poisson que de faire appel à ce cliché des paysans contre les écolos, et on est content de les viser aussi et de porter ce propos-là qui est clair. Voilà.
Pour assister au concert BD Algues Vertes, billetterie en ligne sur le site culture.service.unif-rennes2.fr. Les tarifs vont de la gratuité à 15 € selon votre situation et c'est à partir de 12 ans. La performance sera suivie d'un bord de scène avec le musicien François Joncourt, la journaliste Inès Lérault à l'origine de la bande dessinée Algues Vertes et puis de la photographe Alice Palot qu'on a entendue précédemment dans cette émission. Sur le sujet des Algues Vertes, on peut enfin annoncer la projection d'un court-métrage le lendemain du concert BD, ça se passe toujours au Tambour. Mercredi 15 novembre à 13h, virage loufoque avec le court-métrage Les algues maléfiques d'Antonin Peretchatko. C'est gratuit mais sur réservation.
À l'hôpital de Lannion, saurait-on que les marées vertes ont tué des êtres humains? Probablement pas.
Vous êtes sur Canal B et vous venez d'entendre Retour au réel, un extrait du concert BD Algues vertes, l'histoire interdite, joué par Mnémotechnique et Point, et à découvrir sur la scène du Tambour, mardi 14 novembre à 20h. Vous êtes toujours dans l'émission d'info locale de Canal B qui s'appelle L'Arène, si jamais vous n'aviez pas l'info, émission qui se termine chaque jour sur une recommandation. Cette recommandation du jour, ce sont ou des conseils de choses à lire, à écouter, à voir ou à vivre. J'en remets une couche là en passant sur le village des sciences à découvrir ce week-end au Champ Libre à Rennes. Rendez-vous samedi 14 et dimanche 15 octobre pour 28 propositions en compagnie de chercheurs, d'étudiants, d'associations aussi, autour du thème sport et sciences. C'est gratuit le programme, il est à retrouver en ligne sur espace-science.org. Et ce week-end, la voilà donc la recommandation du jour, ce sont aussi les journées nationales de l'architecture organisée par le ministère de la Culture du 13 au 15 octobre. Samedi 14 octobre à Rennes, il y a l'ENSAB, l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne, qui vous ouvre ses portes de 9h à 13h. Rendez-vous au 44 boulevard de Chézy pour des visites guidées du lieu sur une durée d'une heure, mais aussi pour découvrir une exposition photo d'Urbex réalisée par la photographe rennaise Amélie Berthaud. L'entrée est libre et gratuite. Et puis, dans le cadre du Village des Possibles, cette fois sur le Mail François Mitterrand, il y a aussi l'association Empreinte qui propose un événement pour ces Journées nationales de l'architecture, une association qui promeut l'habitat écologique et qui proposera samedi après-midi un atelier et une démonstration autour de la construction en terre et en paille. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour, pourquoi pas, s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.